Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Évidemment, vous n'avez pas pu rater que, en ce moment, il y a un retour du spirituel, du magique, du sacré, de l'invisible. Aujourd'hui, je reçois Michel Maffezoli, qui est un sociologue, on pourrait presque dire un visionnaire, qui a écrit tout ce qui est en train de se passer il y a une quarantaine d'années déjà. Il le décrit de manière régulière. Et là, il sort un livre sur le sacré, justement, l'avant-dernier livre de sa carrière. Et ensemble, on discute de tous ces sujets-là, de d'où ça vient, pourquoi on est là, qu'est-ce que ça veut dire de la société. C'est une conversation évidemment passionnante que je vous laisse écouter maintenant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes déjà arrivé deux fois sur ce podcast, oui, mais cette fois-ci, on va parler de sacré. Et c'est intéressant parce que vous écrivez, vous venez d'écrire un livre sur le sacré. J'ai l'impression que c'est un sujet que les penseurs, les chercheurs commencent à analyser. Vraiment, quand ils arrivent, quand ils en analysent pas mal de choses, finalement, ils arrivent au sacré. Alors, je voudrais savoir, mais pourquoi le sacré? Pourquoi maintenant?
Bon, pour ce qui me concerne, moi, c'est une vieille préoccupation. C'est-à-dire que dans plusieurs de mes livres antérieurement, je rendais attentif au fait qu'il y ait le ressurgissement de ce qu'on appelle sacré, ce rapport, disons, à l'invisible pour comprendre le visible. Voilà ma définition. Et donc, c'est un des livres, j'avais décidé que vers la fin de ma vie, je mettrais à écrire sur le sacré. Et c'est, en effet, ça va être, c'est l'avant-dernier livre, j'en ferai un autre, mais c'est tout, quoi. Voilà.
Ah, ça,
oui. Ça culmine un peu de mon travail dans cette recherche-là. Alors, le pourquoi? Pourquoi, c'est toujours difficile de répondre au pourquoi. Donc, on sait le comment, moi j'ai jamais voulu dire le pourquoi. Mais enfin, en gros, vous savez que de mon point de vue, on est en train de passer d'une époque à une autre époque.
Bien
sûr. Dans le sens simple du terme, l'époque moderne, même si l'oligarchie au pouvoir veut maintenir cette époque moderne et les valeurs de la modernité, moi je pense que globalement c'est en train de s'effilocher, il y a un délitement de cette modernité et l'émergence d'autres choses. Quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on voit ce processus de balançoire. Pendant au moment 3 siècles, domine quelque chose, et puis après, ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait laissé de côté, ressurgit. Et en bref, la modernité a mis je m'appuie ici sur l'œuvre de Max Weber, par exemple, de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il montre que ce qui était le fil directeur de la réforme protestante, et ce qui pour lui est le fondement même du capitalisme, c'est-à-dire la société moderne, ben c'était la rationalisation généralisée de l'existence. Voilà ce qu'il dit. Aboutissant, selon une belle expression qu'il faut dire et redire, aboutissant au fameux désenchantement du monde. Voilà. Le terme allemand est d'ailleurs un peu plus riche. Entsäuberung der Welt, on a traduit par désenchantement. Zauber en allemand, c'est le sorcier. Donc je dirais, moi, il y a eu une démagification du monde qui s'est opérée par le rouleau compresseur de la raison, qui a abouti à le contrat social, ces institutions, Michel Foucault l'a bien montré, qui s'élabore au 19e siècle. Et ce fut un rouleau compresseur, je fais exprès d'employer cette expression, c'est ceux qui avaient évacué, encore une fois, tous ces éléments un peu invisibles, le sacré sous ses diverses modulations, etc. Et mon hypothèse, dans le mouvement de balancier que je viens de dire, eh bien, c'est que toute une série d'indices, d'observations qu'on peut faire, et puis ce serait bien qu'on en parle d'ailleurs de manière concrète cela, eh bien tout cela, je dis bien indices, index, ce qui montre. Pour moi, ce qui montre, il y a un retour de cet élément qu'on avait laissé de côté. Alors, j'ai résumé cela en disant sacré, mais ça pourrait être le divin, ça pourrait être l'invisible, ça pourrait être la déité, peu importe. Moi, j'ai pas dessus de fétichisme du concept. Mais voilà, voilà ce qui a mu cette recherche et ce livre qui a pour titre « La nostalgie du sacré », mais qui rend attentif au fait que tout ce que dans notre progressisme un peu bené, notre progressisme qui est devenu de plus en plus destructeur, le saccage écologique le montre bien, eh bien, il y a retour de ces valeurs beaucoup plus terriennes, ces valeurs, encore une fois, enracinées. Si je résume et termine là-dessus, ce qui a prévalu, je prends l'idée nietzschéenne, ce qui a prévalu dans la modernité, c'est Apollon, la raison claire. Pour moi, ce qui est en train de prévaloir, ce fut un de mes livres il y a fort longtemps, c'est Dionysos. Voilà. Mmh. Et donc Dionysos, c'est un autre rapport, encore une fois, à l'invisible qui s'opère. Voilà un peu.
Et alors, vous utilisez aussi un mot, il me semble, dans votre quatrième découverte, qui est le sensible.
Oui.
C'est intéressant parce que, en fait, le sensible, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à en parler, qui commencent à toucher ça. Il y a cette féminisation du monde aussi dont vous parlez, dont les gens parlent de manière plus générale. Ça commence à se répandre, j'ai envie de dire, dans la société. Moi, c'est vrai que on m'a souvent dit d'ailleurs que sur ce podcast, je traitais jamais de religion. Et c'est vrai que quelque part, c'est un choix, mais quelque part, ça me semblait pas nécessaire. Je parle de sacré, mais pas de religion. Comment on fait peut-être le lien entre sensible, religion, sacré? Ça peut être intéressant de voir ça.
Bon, un des éléments, justement, de quand j'ai dit tout à l'heure le rouleau compresseur du rationalisme, c'est que, en quelque sorte, on a gardé, j'ai bien dit, qu'une conception rationnelle du monde, rationaliste. Et ce qui fut la grande marque, d'ailleurs, de la philosophie ou de la psychanalyse, Marx et Freud, au 19e siècle, c'était la séparation. Séparation du corps, de l'esprit. Séparation de la culture et de la nature, etc. Freud reprend cette idée, d'ailleurs le terme allemand qu'il utilise, Spaltung, c'est la coupure. La coupure entre ces... On n'a plus cette conception holistique, voilà. C'est la coupure ou la séparation. Concept de Hegel, concept de Freud. Et moi, pour ma part, depuis longtemps d'ailleurs, j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Et en gros, une de mes hypothèses, c'est de voir qu'est en train de revenir, alors le mot que j'emploie, mais cette entièreté de l'être. Si on le dit en des termes un peu plus sophistiqués, mais qui est de plus en plus utilisé, une conception holistique du monde. C'est-à-dire, dans le fond, holos, c'est en grec, c'est la totalité, la globalité. C'est-à-dire, non pas cette séparation, mais au contraire, montrer que, bon, il y a ça et ça. Et voilà. Et pour moi, mon éloge de la raison sensible, c'était ça. Alors, il se trouve que depuis, c'est un peu curieux ce que je vais dire, mais depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à un philosophe du XIIIe siècle, un grand théologien, qui est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin s'appuyait sur l'œuvre d'Aristote pour montrer, en français la traduction c'est « il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, nil est in intellectu qui non fuit prius in sensu », pour montrer en quelque sorte cette dimension holistique, une conception que les philosophes appellent réaliste. Mais le réalisme, c'est cette conjonction. Alors voilà, moi, ça me paraît être cet élément qui s'exprime dans le sacré, c'est-à-dire, le terme que j'emploie souvent dans mon livre, c'est l'incarnation, à l'image du mystère de l'incarnation dans la théologie chrétienne et catholique. L'incarnation, c'est-à-dire quand l'esprit devient chair. C'est ça l'idée, l'incarnation. Et voilà pour moi un des éléments forts de cette postmodernité, un élément fort, encore une fois, de cette interaction, réversibilité, enfin, peu importe les termes qu'on va employer, qui existe encore une fois entre la matérialité et la spiritualité. Voilà. Et c'est ce qui me paraît être une des grandes manifestations contemporaines, en particulier chez les jeunes générations, qui tout à la fois sont attentives au corps et en même temps à l'esprit. Moi, j'appelle ça un corporéisme mystique ou un matérialisme spirituel. C'est-à-dire, à la manière d'un oxymore, on voit les divers éléments, les diverses facettes d'une même réalité. Pour moi, c'est un signe de grande santé dans la perspective nietzschéenne.
Et alors, du coup, est-ce que vous pensez que c'est le retour de la religion? Parce que moi, par exemple, je ne suis pas croyant dans une religion. Pourtant, je m'intéresse beaucoup au mysticisme, à la spiritualité, à tous ces éléments autour du sacré. et pas nécessairement la religion. Vous parliez tout à l'heure de signes. C'est quoi ces signes? Parce qu'on voit bien, alors évidemment, il y a la montée du djihadisme, mais qui est une forme exacerbée, évidemment, qui n'est pas l'islam, mais je pense qu'il y a parfois des gens qui confondent malheureusement. C'est quoi les signes? Est-ce que c'est un retour de la religion ou est-ce que c'est un retour du sacré?
Alors, moi, je n'emploie pas le mot religion. Mais un terme que je propose, qui n'est pas de moi d'ailleurs, la religiosité. C'est-à-dire quelque chose qui fait que l'idée de religion renvoie à une conception un peu dogmatique. Mmh. Si je suis catholique, j'ai tel dogme. Si je suis protestant, si je suis musulman, j'ai tel dogme, etc. Alors que la religiosité, c'est au contraire quelque chose justement ambiental, je dirais. C'est une atmosphère dans laquelle on baigne. Alors, disons, moi je me souviens très bien avoir dirigé quelques recherches dans mon centre, le CEAC à la Sorbonne, et j'avais des chercheurs qui montraient comment de plus en plus se développait le candomblé brésilien, le tantrisme, le yoga sous ses diverses modulations, et cela lié à une conception parfois très mystique, voir comment il y avait retour de la méditation. Il y a un retour faramineux, avant qu'il y ait ces sottises de confinement, retour faramineux des pèlerinages, par exemple, avec ces jeunes générations qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Chartres ou autre. Souvent, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens. Mais c'est comme ça, cette recherche, encore une fois, un peu diffuse, de ce que j'appelle l'invisible. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que je dis sacré. Le sacré est un terme un peu commode pour rassembler toutes ces manifestations très diverses les unes par rapport aux autres, mais qui traduisent bien, encore une fois, ce souci de ce qui n'est pas simplement le matérialisme, l'économicisme. Mais on verra cette religiosité, Internet aidant, d'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler, au travers des développements des solidarités, des générosités, de l'entraide. Même ce mot, qui était de mon temps un mot réservé à la religion, le caritatif. Voilà des petits indices qui montrent bien que, je répète, c'est pas une religion dogmatique, c'est une atmosphère, un imaginaire, dans le sens que Gilbert Durand donnait à ce terme, dans lequel on baigne, et qui, encore une fois, met l'accent sur le prix des choses sans prix. Ce qui n'est pas directement le système des objets, ce qui n'est pas directement la consommation, etc. Et je pense que c'est ce qui va ressurgir beaucoup après cette crise sanitaire. Elle est pour moi l'indice d'une crise civilisationnelle et on va voir revenir une échelle de valeurs totalement différente à celle qui avait marqué l'économicisme et le matérialisme.
Donc vous pensez vraiment qu'il va y avoir un monde d'après ?
Bon, maintenant tout le monde parle du monde d'après, moi ça me fatigue un peu, j'ai même fait des articles, je fais une conférence bientôt sur qui a été intitulée par l'organisateur Le Monde d'après, etc. Mais non, je dis tout simplement que voilà, il y a saturation de ce qui furent les grandes valeurs modernes. Individualisme, rationalisme, progressisme. Et que donc, du coup, on va voir ressurgir d'autres types de valeurs. Monde d'après, j'en sais rien. Disons quelque chose qui fait que ce sera tout à fait alternatif. Les soulèvements populaires aidant, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai écrit pas mal d'articles sur ce thème en disant que, de diverses manières, on voit bien que le peuple va en faire entendre sa voix. Et que ce peuple ne se retrouve pas dans simplement le matérialisme, la valeur travail, l'économicisme, etc. Le prix des choses sans prix. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Enfin, on pourrait multiplier à l'infini des slogans comme je viens de faire, mais qui montrent bien que il y a un passage du quantitatif au qualitatif. Et pour moi, c'est ça, cette religiosité, etc. Et que c'est uniquement si on sait gérer cette religiosité qu'on aboutira à une société équilibrée. Et que le djihadisme, puisque vous avez parlé du djihadisme, c'est tout simplement une attitude perverse. C'est-à-dire, on n'a pas su ritualiser le sacré. Et il prend une forme paroxystique, sanguinaire et sanglante, perverse. Voilà. Mais pour moi, c'est pas un vrai problème parce que ce djihadisme, c'est un combat d'arrière-garde, c'est la fin d'une conception très étroite du monde. Mais au-delà de ça, il y a retour sous ces diverses modulations, encore une fois, d'une autre attitude. Le mot que j'aime bien employer, de l'entièreté de l'être. C'est-à-dire, encore une fois, quelque chose qui donne à l'esprit sa force avec le corps et au-delà du simple de l'économicisme qui a prévalu durant la modernité.
Et en fait, moi j'ai l'association que les personnes sont un peu perdues, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde d'avant le moderne, tout ce que vous décriviez sur l'individualisme, Et ben finalement, on se rend compte que les gens sont perdus et du coup ils cherchent à se raccrocher à des valeurs, peut-être des choses auxquelles, des piliers en fait simplement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vers ce sacré.
Ah ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi j'ai pas le sentiment que les gens soient perdus actuellement.
Hein.
C'est un peu ce que veut nous faire croire l'intelligentsia ou les élites, hein, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, parce que tout simplement ils sentent que ce pouvoir est en train de se déliter, hein, que ça ne va plus marcher, fondamentalement. Pour moi, j'ai fait une distinction entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir est institué, c'est celui des institutions, de l'oligarchie. La puissance, c'est ce qui vient du bas. Pour moi, c'est la puissance populaire, et à mon avis, rien n'arrêtera cette puissance populaire. Et alors, mais nous sommes dans un moment où il y a une dichotomie entre la société officielle, celle, encore une fois, de l'oligarchie, des élites, et la société officieuse, celle des jeunes générations en particulier. Et donc, chez ces jeunes générations, non, il y a de la vitalité qui est très forte, encore une fois. Il y a de Internet aidant, parce qu'on ne le dira jamais assez, le rôle des réseaux sociaux, hein, le rôle, encore une fois, des forums, des blogs de discussion, etc. Et dans cette, quand on regarde avec attention ces réseaux sociaux, au-delà de la presse mainstream, hein, au-delà des médias officiels, eh bien, là, il y a une vraie vitalité. Donc, c'est pour ça que je crois pas qu'il y ait une vraie, enfin, une peur de ce qui est en train de naître, mais au contraire, il y a du, si je prends le mot de Lévi-Strauss actuellement, il y a du bricolage dans l'air. On bricole. Bien sûr, on est obligé d'être, de rentrer dans un modèle économique par le travail ou autre. C'est pas la peine, on peut pas nier cette dimension-là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui met l'accent au-delà de ce modèle économique. Moi, je fais souvent des entretiens, je suis souvent invité par des chefs d'entreprise, par exemple. Et eux, ils ont le nez creux. Ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus manager avec la manière qui était la leur, telle qu'ils avaient appris dans le taylorisme de Ford. Mais au contraire, mettre l'accent sur des éléments très spirituels. Hein. Et moi, je leur dis, au travers de deux mots simples, c'est si vous saviez mettre l'accent sur l'appétence, que vous obtiendrez une compétence. Hein. Et l'appétence, c'est quoi ? Ben, c'est le ludique, l'onirique. Je donne un exemple frappant. On lisait dernièrement un article au Japon où un coach faisait, dans des petits groupes de managers, faisait pleurer ensemble. bon, alors ça peut être paroxystique, peu importe, mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a l'accent qui est mis, encore une fois, sur l'immatériel, sur ce qui n'est pas simplement quantitatif. Voilà, c'est en ce sens que, pour ma part, je considère qu'il n'y a pas une crainte de la part, encore une fois, de la base, mais au contraire, une vitalité très forte auquel il faut être attentif.
Et alors, quelle lecture on peut faire du mouvement des 70? Parce qu'en fait, on avait... Enfin, moi, j'ai la sensation, j'étais pas là, mais j'ai la sensation qu'il y a eu ce mouvement qui s'est fait dans les 70, on parle... Oui. Et puis, qui a été tué dans l'œuf par encore plus d'individualisme, j'ai l'impression, dans les années 80. Comment on peut faire la lecture? Est-ce que c'était une sorte de prémisse? Est-ce que... c'est en train de revenir.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, pour le dire au travers de deux mots très simples, je dis, quand une époque s'achève, une époque, ça veut dire parenthèse en grec, hein, donc une parenthèse, la parenthèse moderne est en train de se fermer. Pour moi, c'est vers les années 50 avec le design et les années 60, les révoltes juvéniles, hein, Berkeley et les révoltes en Europe. Ça marque la fin de l'époque moderne. Mais entre deux époques, il y a des périodes. Une époque, ça dure 3-4 siècles.
D'accord.
La période, ça dure quelques décennies. Et donc, ce qui a émergé dans les années 50, une esthétisation de l'existence, le design, ce qui a émergé au travers des révoltes, juvéniles, par exemple, c'était le refus de la modernité. Et puis, pendant quelques décennies, ça se perd dans le sable, si je puis dire. Hein, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est toujours comme ça. Jusqu'à ce que, et à partir de l'an 2000, ben, il y a retour de ces valeurs-là. Voilà mon hypothèse, moi. Hein. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a les prémices, puis après, je dirais, le pouvoir, l'aspect officiel, l'économicisme tend à prévaloir, et à partir des années 2000, là, au contraire, il y a retour en force de ceux qui avaient été, en quelque sorte, ceux qui avaient été testés dans ces révoltes juvéniles des années 60, hein, j'ai dit tout à l'heure, faire de sa vie une œuvre d'art, hein, etc. Tous ces termes-là rendaient attentif au fait qu'il y a le désir de l'entraide, du partage, etc. Et ça prend de plus en plus d'importance actuellement. Hein. Un mot, un préfixe pour dire cela, moi je rends attentif toujours quand je parle à l'importance du co covoiturage, co-working, co-location. C'est le cum, hein, avec en latin. Et donc on voit revenir cette dimension du cum, c'est ça le sacré. Oui, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on n'est plus enfermé dans son individualisme, mais on est en train de passer, maintenant ça prend une forme très, très évidente, entre l'ère du jeu à l'ère du nous. Et c'est Heidegger qui montrait d'une manière prémonitoire, en quelque sorte, que ce glissement du jeu au nous, jeu, J-E, égo, hein, l'égotisme, qui était le propre même, le fondement de l'économicisme, va au contraire laisser la place au nous, ce que j'appelle moi un idéal communautaire, c'est mon livre Le Temps des Tribus qui rendait attentif, et que ce nous est en train de se manifester d'une manière très forte, fût-ce dans les soulèvements, fût-ce dans les révoltes, fût-ce dans les insurrections multiples et diverses qui sont en cours actuellement et qui seront, de mon point de vue, de plus en plus en cours.
Et alors, quand on parle de sacré, il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui connectent à l'écologie, à la nature. J'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, finalement, le sacré, c'est le vivant. Donc le corps à son échelle individuelle, mais aussi le vivant, c'est-à-dire la nature entre guillemets, les plantes, mais aussi les autres espèces vivantes.
Oui, alors moi je mais c'est une petite coquetterie, moi j'aime pas le mot écologie.
D'accord.
Parce qu'en particulier en France, c'est devenu une écologie, une dimension politique, qui ont copié le modèle des partis politiques et ils sont en train de se casser la gueule pour ça. D'ailleurs. Par contre, je vous signale que j'ai écrit un livre qui s'appelle Écosophie.
Bien sûr. Hein.
L'écologie, c'est encore un si on reste à l'étymologie, c'est logos, c'est un savoir rationnel, oikos, c'est la maison commune. L'écosophie, c'est la sagesse de la bien maison sûr. Commune. Alors, bon, je préfère employer le mot écosophie, mais peu importe l'idée, hein, on va pas se disputer sur des termes, non. C'est pas ça l'essentiel. Vous avez raison sur le fond, c'est-à-dire que ce que j'appelle moi écosophie, ben, met l'accent sur la terre-mère. Hein. J'ai fait un autre petit livre sur l'écosophie qui s'appelle Matrimonium, hein, ben, pour montrer que c'était la terre-mère, en quelque sorte, la nature. Non pas cette nature que j'exploite à merci, hein, souvenons-nous de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature, mais une nature où l'on rentre en réversibilité. Gilbert Durand, que j'ai cité, qui fut mon maître, parlait du trajet anthropologique, c'est-à-dire ce rapport réversible qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. L'école de Palo Alto en Californie parle de proxémie. Cette idée de proxémie, c'est ce rapport qui existe entre le social et la nature. Et moi, je pense que c'est un des éléments du sacré, bien évidemment. C'est-à-dire, encore une fois, non pas cette prétention de tout dominer, attitude paranoïaque s'il en est, qui est encore en jeu chez de nombreux, chez les technocrates, les bureaucrates, l'oligarchie et tutti quanti. Mais au contraire, une attitude, encore une fois, de réversibilité, d'échange.
Mais alors, du coup, Michel, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, en même temps, dans la Bible, c'est un peu écrit que l'homme domine, que la nature, les autres animaux, les autres espèces vivantes sont à son service quelque part, non ?
Oui, bah, enfin, oui et non. C'est-à-dire que quand il y a cette fameuse chute du péché originel, etc., l'espèce d'harmonie qui existait entre l'homme, la végétation, les animaux, qui en faisait le paradis, en quelque sorte, hein, où il y avait des processus de réversibilité, a été coupé et a dominé uniquement cette idée qui va culminer, je l'ai dit après, avec Descartes, hein, c'est-à-dire cette conception de la maîtrise du monde à partir de l'individu, de l'homme, etc. Non, parce que, alors ça c'est oui, il y a cette dimension-là, non parce qu'en même temps, il y a dans la Bible toute une série de pages qui montrent bien, au contraire, qu'il y a des, alors comment on va dire cela, une rémanence de cette conception matrimoniale, hein, du fait que l'homme ne peut exister que s'il est en communion. En quelque sorte. Avec, donc on peut trouver des quantités de textes, hein. On ne va pas être bibliste ici, non. Je ne pourrais pas vous les donner, mais il y a des quantités de textes qui font état, bien évidemment, de cette réversibilité, de cette réciprocité qui existe entre la nature et l'homme. Voilà. Donc il se trouve que la modernité a mis l'accent plutôt sur la première partie que j'ai dite de la Bible, hein, c'est-à-dire Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature, qui ne fait que traduire en termes philosophiques ce qui se passe après la chute originelle. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que ce qui va caractériser la post-modernité, c'est au contraire un autre rapport. Encore une fois, de réversibilité. Donc il ne faut pas donner, hein, il ne faut pas chercher simplement dans la Bible cette dimension purement de domination qui a abouti, ne l'oublions pas, à la dévastation, hein, c'est Heidegger qui le souligne, hein, la dévastation du monde à partir de la domination du monde, mais au contraire, l'aspect beaucoup plus, comment pourrait-on dire, beaucoup plus mystique, hein, que l'on va retrouver dans, d'ailleurs dans l'ésotérisme et dans la mystique, qui fait que ce n'est pas simplement la raison qui prédomine, on le disait tout à l'heure, mais le sensible, le corps. Voilà, donc on a ces deux éléments, et parfois c'est plutôt l'élément de domination qui va dominer, c'est ça la modernité, parfois au contraire c'est la réversibilité. Cette communion, en quelque
et,
sorte.
Et vous parlez d'une époque qui dure 400 ans. À quelle époque on peut se référer pour savoir un peu, je ne sais pas si c'est possible même, ce vers quoi on va, cette postmodernité, on appelle ça postmodernité, ce que vous expliquez à chaque fois, vous ne l'avez pas refait là, mais parce qu'on ne sait pas précisément comment ça s'appelait, c'est juste une époque. Une époque. Oui, c'était une époque après la modernité, donc c'est postmoderne. À quoi on pourra se référer? Est-ce que c'est le Moyen-Âge? Est-ce que c'est...
Alors... Il y a un vous avez oublié de dire qu'il y a la Renaissance.
Il y a la Renaissance, oui, bien sûr.
La Renaissance, c'est justement une période qui va s'achever avec la modernité. Mm-hmm. Mais la période de la Renaissance, c'était cette dimension, encore une fois, de communion avec la nature, c'est-à-dire où il y avait prévalence de dimensions très propres, proches de l'invisible. Je donne un exemple historique, on pourrait en trouver bien d'autres, mais dans ce qu'on appelait le Quattrocento, c'est-à-dire la Renaissance italienne, la ville, le monde, c'était Florence, Florence la Belle. Et là, il y avait une espèce d'interaction entre les artistes, les banquiers, le clergé, le bourgeois du tout venant et tout à l'avenant. Mais il y avait ce processus d'interaction. Voilà. Et alors, pour moi, c'est cette période qu'on est en train de revivre, hein, après la parenthèse moderne, après l'époque moderne. Ce serait la Renaissance.
D'accord.
Ce serait ce mot. Le mot d'ailleurs est intéressant, Renaissance. Hein. Restons sur sémantiquement cette expression qui montre bien que ceux qui avaient été un peu totalement rigidifiés à la fin du Moyen-Âge, ben là retrouvent une force et vigueur indéniable et en particulier un autre rapport à la nature. Cueillir aujourd'hui les roses de la vie, Ronsard, hein, voilà. Le carpe diem sous ses diverses modulations. Toutes ces choses-là qui, à mon avis, vont disparaître avec la modernité, progressivement, et qui, de mon point de vue, sont en train de renaître dans la postmodernité. Voilà, on pourra en trouver d'autres périodes, mais ces deux, celle-là, la Renaissance, moi, me fascine à bien des égards.
Et vous qui êtes originaire des Cévennes, on voit en ce moment, en particulier après le confinement, mais c'était déjà vrai avant, hein, mais c'est juste que le confinement, je pense que ça a marqué d'autant plus un désamour de la ville pour un retour... à la nature.
Oui, c'est vrai. Oh, moi, j'aime la ville. Hein. Moi, j'aime Paris. Donc, mais je suis heureux de faire ce va-et-vient. Hein. J'ai la chance de pouvoir aller dans les Cévennes ou dans les Alpes où j'ai une autre maison et puis de revenir à Paris. Voilà. Mais sur le fond, oui, moi, je crois qu'au-delà de mon appréciation personnelle, il est frappant de voir que nombre de jeunes actuellement vont quitter les grandes villes, Paris en particulier. Enfin, je veux dire, moi, je vois dans ma parentèle proche, certaines de mes proches qui vont partir en province. Hein, soyez, et très précisément dans cette, parce qu'il y a un autre rapport à la nature qui va se faire. Voilà. Donc c'est un processus, disons, de saturation. On est en train de vivre la saturation d'une conception de la ville qui était totalement insupportable, invivable à bien des égards. Voilà. Et c'est vrai que le confinement, pour les Parisiens, n'a pas été chose aisée. Hein, c'est-à-dire, moi, je vois certains de mes étudiants vivant dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés, c'était quelque chose qui était dur. Mais en même temps, du coup, ça a rendu attentif au fait qu'il y avait d'autres lieux que la ville pour vivre et pour trouver le qualitatif de l'existence. Hein, retenons bien cette idée. Ce qui a trait au sacré, conception holistique, c'est encore une fois l'idée du qualitatif. Et donc, de notre rapport à la nature, de notre rapport aux autres, la communauté, hein, la communion sous ses diverses modulations. Et c'est en ce sens que, pour ma part, je mets l'accent dans mon livre sur cette dimension d'idéal communautaire. Hein, c'est-à-dire des formes très traditionnelles, pas simplement le baratin protestant, mais au contraire la liturgie, l'encens, les cierges. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui montrent bien qu'on ne se satisfait pas simplement d'un discours rationnel, mais que l'émotionnel va retrouver une force qui est très, très importante.
D'ailleurs, c'est assez beau de parler de sacré et de renaissance, même si on ne retombe pas dans la Renaissance, mais ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve que c'est des images qui sont assez belles.
C'est important d'être attentif aux mots, hein. Souvenez de Camus, hein, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Hein, et de fait, moi, dans tous mes livres, et d'ailleurs et dans les conférences que je peux faire, j'ai toujours cette espèce de réflexion sémantique. Attends, n'utilisons pas des mots sans faire attention à ce qu'ils signifient. Renaissance en est un. Hein, c'est-à-dire tout simplement, après cette domination d'une conception mortifère. Hein, les gens de l'école de Francfort ont parlé de la rationalité mortifère, hein, une rationalité instrumentale qui devait être utile uniquement. Là, au contraire, j'ai bien dit, raison sensible. Et donc, la Renaissance, cette dimension où à la fois on ne nie rien de la capacité de la raison, et en même temps on la complète avec le rêve, le ludique, vous voyez, des termes dans ce genre-là. Et c'est cette dimension, encore une fois, de l'entièreté de l'être individuel qui se manifeste dans l'entièreté de l'être collectif. Et c'est ce retour du sacré. Moi, mon livre, je voulais l'appeler « Le retour du sacré ». Bon, finalement, l'éditeur a préféré la nostalgie du sacré. Mais l'idée forte, le fil rouge de tout ce livre, c'est ce retour du sacré, qui ne peuvent pas prendre, soyons clairs, des formes perverses, on le sait, mais en même temps des formes de générosité, un autre rapport à la nature, etc.
Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlant, donc je veux savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte.
Ah ben, quand même, tout mon travail montre que, et Vlam, c'est une belle expression, on est en train de claquer la porte de la modernité. Hein, je répète, hein, le tripode moderne, c'est individualisme, rationalisme, progressisme. Hein, d'ailleurs, demain, on rasera gratis, les lendemains qui chantent la jouissance pour un peu plus tard. Voilà. donc, Vlam.